réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Avec Yannick Bouchard.
À 15h19 sur l'ensemble du réseau Cogeco, un résultat de la Coupe du monde de soccer, 62e minute, 1-1 entre l'Espagne et le Maroc. On va parler à Arcadio Marcuzzi un peu plus tard au cours de l'émission. Là, on va parler de Formule 1 parce qu'on va revenir sur le Grand Prix de France. On va en parler avec Jacques Villeneuve. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors Jacques, première épreuve en France depuis 2008. À cette époque-là, c'est Felipe Massa qui avait remporté l'épreuve. Là, 10 ans plus tard, c'est Lewis Hamilton. Mais Jacques, avant de parler de cette victoire de Lewis Hamilton, est-ce que les Français semblaient heureux de retrouver la Formule 1?
Ah oui, ben majoritairement. Hein. Parce qu'il y avait une foule incroyable. Et je crois que les autorités n'avaient pas prévu autant de monde, surtout le vendredi, parce qu'ils ont laissé les routes ouvertes au trafic normal. Et là, il y a certaines personnes qui ont mis 7 heures pour venir au circuit, donc qui ont
trafiqué. Oui, c'était
pas long,
c'était pas mal achalanté. Et à l'époque, ça se passait sur le circuit de Magny-Cours, un circuit que tu as connu toi-même. Est-ce que c'est un circuit qui te plaisait, ça? Est-ce que tu te souviens si tu avais connu du succès là-bas?
C'était toujours des courses le fun. Il y avait des bonnes zones pour dépasser. Par contre, on avait du mal à régler la voiture. Là, c'était un des circuits qui était compliqué. Pour moi, en tout cas. Donc, ça n'a jamais été fantastique pour les résultats. Par contre, il était le fun en course.
Est-ce que ce sont de bons fans de course automobile, de bons amateurs de Formule 1 là-bas?
Ah oui. La France. Écoute, l'origine de la Formule 1, le premier Grand Prix en 1906, je crois, c'était à Paris. Et ensuite, le premier Grand Prix d'après-guerre en Formule 1, à nouveau au Bois de Boulogne à Paris en 1946. Donc oui, c'est l'origine de la FIA est à Paris. Ce sont des fans assidus d'ailleurs. Ils ont les 24 heures du Mans qui perdurent.
Oui, c'est vrai.
C'était ridicule de ne pas avoir de Grand Prix de France pendant 10 ans.
Alors c'est une bonne chose que la Formule 1 soit de retour en France, c'est ça?
Ben oui, c'est complètement absurde qu'il n'y en ait pas eu. Et on l'a vu avec l'engouement de tous les fans qui étaient là.
Bon, parlons maintenant de la course en tant que telle, remportée par Lewis Hamilton. Il a profité, disons-le, d'une erreur de Sébastien Vettel dès le premier virage. En fait, Hamilton a dominé de bout en bout ce week-end-là. Là. Les qualifs, les séances d'essais libres et la course d'hier.
Oui, mais même sans l'erreur de Vettel, il était imbattable ce week-end. Les deux Mercedes étaient imbattables. C'est un circuit qui leur convient déjà, qui convient au châssis. Ils avaient leur nouveau moteur qu'ils n'avaient pas amené à Montréal, donc qui était bien évolué. Et en plus, on a ramené les gommes les mêmes que Barcelone. Donc des gommes qui avaient été changées, qui étaient plus fines, 0,04 mm de moins de gomme pour empêcher le bullage, le cloquage des gommes. Et ça, à Barcelone, on l'a vu, ça a donné la course à Mercedes. C'est un avantage incroyable pour elle. Ils les ont amenés aussi au Paul Ricard parce que c'est un nouvel asphalte. Ils avaient peur du cloquage. Ils vont les amener à nouveau à Silverstone en Angleterre. Donc ça, ce sont trois pistes où la Mercedes va être imbattable. Et Vettel, qui partait avec des gommes plus tendres que celles des deux Mercedes, savait qu'il devait prendre un bon départ et être agressif au premier virage. D'ailleurs, il a pris un départ hallucinant. Il est parti comme une fusée, mais il était coincé par Bottas à l'extérieur. Et après, complètement à l'intérieur, il a freiné un peu sur la poussière et il s'est complètement loupé.
Un peu trop agressif pour Vettel en début de course
non,
comme ça?
Non, parce que non, il aurait pu tasser Bottas. Il aurait pu être plus agressif et ça se serait peut-être mieux passé. Mais là, on l'a vu, il a freiné un peu tôt parce qu'il savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Sauf que Bottas n'a pas laissé d'espace non plus. Il a tout de suite tourné. Et Vettel étant complètement à l'intérieur, c'était plus un virage rond qu'il devait faire, c'était un angle droit. Avec deux roues dans la poussière. Donc, même en freinant de bonne heure, et malheureusement, il a bloqué les roues et ça endommager sa course et encore plus celle de Bottas.
Parce qu'Hamilton, après la course, a mentionné que Vettel aurait pu mériter une pénalité un petit peu plus importante. Il dit que c'est seulement une petite tape sur les doigts. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, ou?
Ben, c'est la pénalité qu'il donne à chaque fois à tout le monde pour des manœuvres de la sorte. Ouais. Donc non, c'est un commentaire complètement inutile de la part d'Hamilton. Surtout que plusieurs pilotes, dans la même situation que Vettel, les dernières années, n'ont jamais pris de pénalité. Donc c'était même surprenant qu'il en prenne une, parce qu'au départ, généralement, il n'en donne pas.
Ce qui a fait en sorte que Vettel a terminé au cinquième rang. Mais revenons à Hamilton. Donc, troisième victoire cette saison. 65e victoire en carrière pour lui. Et le voilà de retour en tête du classement des pilotes. Est-ce qu'il est là? Je sais que la saison est encore jeune, mais est-ce qu'il est là pour un bon bout de temps d'ici la fin du calendrier, selon toi?
Non, il y a deux courses, on disait ça y est, de toute façon, Mercedes contrôle le championnat. Et paf, à Montréal, Vettel reprend la tête du championnat. Donc, on va rester calme. Il reste énormément de Grands Prix. On n'en a eu que 8 sur 21. Donc, ça, c'était un Grand Prix vraiment spécialisé Mercedes, comme le sera Silverstone. Mais toutes les autres courses, ça devrait rentrer dans l'ordre et on devrait avoir une bonne, belle compétition entre les deux équipes.
Un mot sur Lance Stroll, Jacques, qui n'a pas été en mesure de compléter l'épreuve en raison d'une crevaison. On se répète souvent, mais la saison difficile de Williams et de Lance Stroll qui se poursuit, là.
Oui, mais il a cherché sa crevaison. Il a bloqué à multiples reprises son avant gauche. Et on le voyait, le pneu était sur la corde. On voyait la corde du pneu, il n'y avait plus de gomme. Donc, il devait le savoir, ça, il devait le sentir. L'équipe devait le savoir aussi. Donc, je comprends pas pourquoi, il n'a pas décidé de s'arrêter pour changer de gomme et pourquoi l'équipe ne l'a pas arrêté. Je pense que c'est parce que, par fierté, il voulait rester devant son coéquipier qui était juste dans sa boîte de vitesse. Et en même temps, on l'a vu, les pilotes qui lui prenaient un tour avaient du mal à lui prendre un tour et ça, c'était purement parce qu'il voulait pas laisser son coéquipier revenir. Mais bon, quand on a une gomme comme ça qui est finie, ça devient dangereux. Donc là, c'était à l'équipe et à lui de prendre la décision de s'arrêter.
C'est sa deuxième saison. Comment tu le trouves en piste avec un bagage d'expérience, même s'il est encore très petit, mais comment tu le trouves en piste à sa deuxième saison?
Bon, c'est difficile à juger, hein. L'équipe perd de la vitesse. C'est un amalgame de choses. Ça peut être des ingénieurs, c'est les pilotes qui sont en place qui n'ont pas l'expérience. Ça peut être un paquet de choses qui fait qu'au bout d'un an, deux ans et de certains mois, bien au lieu de progresser, l'équipe tire derrière. Donc là, ça devient difficile à juger. Mais il faudrait qu'il éclate complètement Sirotkin. Sirotkin n'est pas arrivé en Formule 1 avec un bon bagage. Il n'était pas super compétitif en Formule 2. Et il a du mal à le battre, donc faut qu'il trouve une solution là.
Je veux te parler également de Verstappen et Raikkonen qui ont terminé deuxième et troisième, et je veux axer le prochain point de conversation sur Verstappen qui, après un début de saison difficile. Surtout après le Grand Prix de Monaco, lorsqu'il est arrivé à Montréal, on lui parlait également de sa façon de se comporter en piste. Le voilà, là, les choses se replacent tranquillement pour lui. Est-ce que tu trouves qu'il a modifié son comportement en piste?
Ah, complètement. Mais c'est très comique parce qu'il a passé 6 courses à dire qu'il ne changerait pas, qu'il serait encore plus agressif. Même en arrivant à Montréal, c'était ses commentaires. Non, moi, j'écoute pas les. Il s'est même énervé contre un journaliste qui lui posait des questions justement sur sa conduite, qu'il allait lui mettre un coup de tête, un coup de boule pour s'il y avait encore des commentaires comme ça. Et comme par hasard, il a été tout calme à Montréal, même au départ, pareil en France. Donc oui, ça a eu un effet, malgré ses dires. Et l'autre gros changement, c'est que lors des 2 derniers Grands Prix, bien, sa famille n'était plus là. C'est la première fois qu'il se retrouvait sur les Grands Prix seul avec son équipe. Et donc, il n'y avait plus cette protection familiale, paternelle. Donc, il devait prendre ses propres responsabilités en main. Et ça a un gros effet psychologique. Et j'ai l'impression que ça a été plutôt positif.
Donc, ça change beaucoup lorsque des proches sont autour de toi et que tu te retrouves en piste et que tu veux peut-être plaire, oui, à ton écurie, mais tu veux plaire également aux membres de ta famille qui doivent passer certains commentaires, non?
Non, c'est pas une question de plaire. C'est une question d'âge aussi. Un pilote qui est déjà en Formule 1 depuis 10 ans, qui a 35 ans, sa famille vient le voir un week-end, ça change rien. Il a l'habitude d'avoir ses propres responsabilités. Par contre, on va dire un enfant qui arrive en Formule 1 à 17 ans, qui n'a jamais été seul, qui habitait encore à la maison. Donc, il y a toujours eu cette protection familiale, qui n'a jamais été obligé de prendre ses propres responsabilités. Si quelque chose se passe de mal, ben il y a papa qui est là pour protéger, et ainsi de suite. Psychologiquement, ça a un énorme effet. Même si ça n'arrive pas dans les réalités, la perception pour le jeune lui-même, pour le pilote, elle est là. Il sait que il y a cette protection paternelle, même s'il n'y pense pas. Et donc, ça a été comme ça toute sa carrière. Et aussi en Formule 1, donc, il se permettait des commentaires, des passes en course, en partie aussi parce qu'il était surprotégé par l'équipe. Et une fois qu'il a eu cette protection-là, je ne sais pas si c'est ça, mais ça a donné comme ça, il s'est complètement calmé. Donc, ça a eu un effet qui a été très positif.
Très intéressant. OK, prochain Grand Prix, pas de répit. Là, c'est 3 Grands Prix consécutifs. La France, et là, c'est maintenant celui d'Autriche dès le week-end prochain.
Et après l'Angleterre, on n'a jamais eu ça en Formule 1, 3 Grands Prix. On a l'impression que c'est peut-être la touche américaine des nouveaux propriétaires, là, de mettre un paquet de Grands Prix un après l'autre.
Comment tu trouves ça, toi?
Ça rend la tâche compliquée. Au moins, c'est tout en Europe, donc les voyages sont assez faciles.
Oui.
Mais c'est rien, à la grande époque de la Formule 1, il y avait un Grand Prix on va dire, en Australie. Puis le mardi, les pilotes étaient en essai quelque part en France. Ça repartait sur le Grand Prix. Puis le mardi suivant, c'était à nouveau des séances d'essai. Donc, ça tournait toutes les semaines et avec des gros voyages. Donc, c'était encore pire que d'avoir des courses tous les week-ends.
Donc, à quoi on peut s'attendre? Une épreuve qui sourit à quelle écurie?
Oh, ça ne sont que des virages lents, pratiquement. Ah non, c'est moitié-moitié, mais avec beaucoup de lignes droites. Là, il y a le nouveau moteur Mercedes qui semble avoir du souffle, qui me semble bien marcher. Mais les Ferrari, généralement, marchent bien sur ce genre de circuit. Donc, je pense que ça va être bien équilibré entre les deux. Là, ça va être un peu plus compliqué pour les Red Bull.
Tant mieux. Excellent. On va avoir une course et des qualifs peut-être un petit peu plus serrés. C'est bon pour le spectacle, ça, quand ce n'est pas uniquement une écurie qui file seule vers la victoire.
Non, ce n'est pas que ça. Parce qu'à l'époque de Prost Senna, quand ils étaient coéquipiers chez McLaren, tout le monde trouvait ça génial et ils mettaient un tour à tout le monde. C'est juste qu'on voyait deux gladiateurs, deux pilotes qui faisaient rêver, qui prenaient du risque et on avait l'impression que ça allait vite, que c'était à la limite, c'était impressionnant. Ce que l'on a pas généralement, ce que l'on n'a pas eu à Montréal, par exemple, en course. Les pilotes étaient tellement roulés à l'économie, roulaient à 80% des capacités de la voiture pour ne pas surchauffer les gommes et pour économiser le moteur, et ainsi de suite. Et en plus, là, au Paul Ricard, le problème, c'est que c'était des zones d'asphalte de partout. Il n'y avait rien de projet voiture. Donc, même lorsqu'elles roulaient à 340, on avait l'impression qu'elles étaient à 50 à l'heure. Ce n'était pas impressionnant du tout. Et la moindre faute, le pilote tournait un peu large et c'était pas très grave. On l'a vu au départ. Des pilotes ont décidé tout simplement de couper la chicane, de mettre le pied dans le plancher et passer. À l'époque, des graviers du gazon et des murs ou des guardrails, ça, c'était pas possible.
Jacques Villeneuve, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très intéressant. Et on suit évidemment le prochain Grand Prix, celui d'Autriche, le week-end prochain. Merci, Jacques.
Merci, bye-bye.
Merci bien. Jacques Villeneuve qui revenait donc sur cette victoire de Lewis Hamilton du côté du Grand Prix de France. On s'arrête et au retour, c'est Danny Dubé qui va nous parler, qui va nous donner ses observations de ce qu'il a vu au repêchage du côté de Dallas. Et il va nous donner son évaluation du travail de Marc Bergevin et de ses hommes au cours du dernier repêchage. À tout de suite aux amateurs de sport.